France Bleu Normandie. Il est 8h, nous sommes le 27 mars. Jean-Baptiste Marie, bonjour.
Bonjour.
Sur les routes de la région, ça coince évidemment sur le périphérique Canet, chaussée intérieure entre Bretteville-sur-Redon et le CHU, mais dans l'ensemble, ça roule bien. Et cette question qu'on vous pose ce matin, le contournement du périphérique par le sud, cette voie qui, voilà, dans ce dossier, ça revient sur la table, est-ce qu'il faut, voilà, se désengorger le périphérique par cette nouvelle voie, ce contournement en sud? Appelez-nous au 02 31 44 48 44, on vous attend maintenant dans le ciel.
C'est nuageux aujourd'hui encore, avec des averses, du vent également. Les températures 4 à 5 degrés ce matin, 9 à 11 dans l'après-midi.
Une nouvelle route va peut-être sortir de terre au sud de Caen pour alléger le trafic sur le boulevard périphérique.
Oui, des études pour construire ce que l'on appelle le contournement sud de Caen viennent d'être relancées. Le projet est évoqué depuis 25 ans. Il a un coût près de 125 millions d'euros et il permettrait de relier d'est en ouest l'autoroute A13 à la 84 en passant par Frénouville, Rocancourt sur l'axe Caen-Falaise et le périphérique ouest qui serait alors élargi à trois voies, Nolwenn Lejeune.
Le préfet de région a mandaté le préfet du Calvados pour les relancer. Parallèlement, un comité de suivi réunissant toutes les parties prenantes, notamment les collectivités et les agriculteurs, a été mis en place. Et il s'est réuni pour la première fois il y a un mois. Ce projet qui relierait la 13 à la 84 en faisant une grande boucle au sud de l'agglomération cannaise vise à désengorger le périphérique du trafic autoroutier. Un trafic qui risque de se compliquer encore plus avec la mise en service de la nouvelle plateforme logistique de Mondeville. Ce projet permettrait aussi de desservir tout le sud du département. Parmi les écueils qui se dressent sur son chemin, la loi zéro artificialisation nette des sols. Michel Fricou, vice-président du conseil départemental et ardent partisan du projet, estime qu'il faut prendre en compte son intérêt national, à savoir la liaison entre deux autoroutes, pour le faire bénéficier du contingent national de terres encore artificialisables. En revanche, l'élu prévient, ce tronçon doit rester une route de transit et ne doit pas devenir une longue zone d'activité ou industrie.
La fréquentation de l'échangeur de la Porte de Paris, par exemple à Mondeville, qui est l'entrée de l'autoroute A13, qui est aussi les accès qui permettent de rejoindre le centre commercial Mondeville 2, eh bien cet échangeur est fréquenté par 87 000 véhicules par jour. Quant au trafic au niveau du rond-point bleu de Ifs, lui, il a doublé en 10 ans.
Parlons maintenant d'un document étonnant que vous révèle ce matin France Bleu Normandie.
Il émane de la direction de l'emploi, du travail et des solidarités du Calvados, qui est un service de l'État dans le département, et il concerne l'hébergement d'urgence. Selon ce document, les personnes qui contactent le 115, le numéro d'urgence pour les personnes à la rue, sont traitées différemment selon qu'elles sont en situation régulière d'un côté ou qu'elles sont en situation irrégulière ou demandeuses d'asile d'un autre côté. Ce que dénonce l'association Vent Contraire, dont Johannes Simoand est membre.
Il y a un code qui régit l'accès et le maintien en hébergement d'urgence, c'est le code de l'action sociale et des familles. Ce code-là, d'une part, il ne donne pas de durée étalon, il n'y a pas de durée minimum et surtout pas de durée maximum pour l'hébergement d'urgence. Et surtout, il pose en filigrane le principe de l'inconditionnalité. Une des phrases à l'entrée, d'ailleurs, c'est que l'hébergement d'urgence est accessible à toutes les personnes qui sont en situation de détresse psychique et sociale. Donc il n'est absolument pas question de documents, il n'est pas question de catégories administratives. Et là, ce que fait la préfecture, ce qui rend cette illégale, c'est qu'elle crée des sous-catégories qui n'existent pas dans le code de l'action sociale des familles. Donc c'est une pratique discriminatoire à mon sens, c'est une injustice et c'est quelque chose qui pourrait avoir des conséquences concrètes pour les personnes qui sont à la rue. On a un dispositif 115 qui est très sinistré, c'est pas que dans le Calvados, mais prendre ce genre de mesures, c'est éviter le problème et c'est surtout rendre cet accès-là encore plus difficile pour les personnes qui, au fond, font partie des plus vulnérables, les étrangers en situation régulière ou les demandeurs d'asile qui ne bénéficient pas des conditions matérielles d'asile en France.
Et contacté par France Bleu Normandie, la préfecture du Calvados indique que la prise en charge est la même pour tout le monde et réfute ces accusations de discrimination. Elle reconnaît ceci dit qu'en termes de pédagogie, il fallait améliorer la forme. Un nouveau document a donc été rédigé et il est en train d'être transmis aux associations qui s'occupent de l'hébergement d'urgence. C'est à retrouver sur notre site francebleu.fr. Environ 150 retraités ont manifesté hier dans les rues de Caen, dans le centre-ville, se rassemblant en fin de cortège devant la préfecture du Calvados. Ils ont réclamé une hausse de leur pension de retraite, dénoncé la hausse du coût des mutuelles également. Lançant la mobilisation, a rassemblé une cinquantaine de retraités.
8h05 sur France Bleu Normandie. Nous allons dans la Manche, à Flamanville. Non, pardon, avant cela, nous allons sur la Côte-Fleurie. Merci Jean-Baptiste. Le maire de Villers-sur-Mer démissionne.
Eh oui, dans le département du Calvados, Thierry Grand-Turcot l'a annoncé hier aux habitants en publiant un long message sur la page Facebook de la commune. Il dénonce des menaces à son encontre, celles de sa famille. Il s'attaque aussi à des élus qui s'en prendraient à lui. Le climat municipal, il faut le dire aussi, était devenu plus que tendu. Depuis que Thierry Grand-Turcot est poursuivi en justice pour harcèlement moral de certains de ses collègues conseillers municipaux ou d'employés de la mairie, avocat de profession. Il avait été élu maire de Villers-sur-Mer en 2020. On va maintenant en effet dans la Manche à Flamanville où le démarrage de l'EPR est encore repoussé. Le chargement du combustible du réacteur nucléaire nouvelle génération est repoussé au plus tôt à la mi-avril au lieu du 31 mars comme initialement envisagé par EDF. C'est ce qu'a indiqué en tout cas hier soir l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, car elle vient d'achever l'instruction de son dossier d'autorisation de l'EPR et va lancer dans la semaine la consultation du public sur son projet de décision de mise en service. Il y a un délai légal à respecter. Samedi dernier, plus de 700 personnes ont manifesté devant les locaux de l'ASN à Caen pour dénoncer la mise en service future de l'EPR de Flamanville et dire non à la relance du nucléaire en France, impulsée par Emmanuel Macron.
8h07, nous sommes à J-1 du carnaval étudiant de Caen.
Et oui, ce sont les dernières heures pour préparer les chars aujourd'hui, car demain, ce sera le grand jour en effet. 30 à 35 000 carnavaliers vont envahir les rues de la ville dès 14h demain après-midi et au milieu de la foule, il y aura 7 chars des BDE, les bureaux des étudiants. Comme tous les ans, ils passent des heures à travailler dessus. Chaque char a son thème évidemment bien à lui. Ces constructions ont lieu dans le hangar, dans un hangar situé cours Montalivet à Caen, où la construction et la décoration des chars est donc toujours en cours. Vous l'avez constaté, Jeanne Stémar.
Ça visse, ça scie et ça cogne. Les chars du carnaval étudiant sont encore en plein montage.
Donc, il y a la structure métallique qui est en train d'être construite par notre prestataire et puis les gars qui sont en train de travailler sur la structure bois.
Henri est ingénieur dans le BTP. C'est lui qui s'occupe de superviser les travaux du char de son école.
La grue, nous, on la réinstalle parce qu'elle a été construite par le BDE précédent. Et nous, on rajoute notre pierre en construisant un bras de pelle.
Des engins de chantier en bois d'un côté, une structure métallique en forme de bateau de pirate de l'autre. Les thèmes sont variés. Alexis fait partie du BDE des 5 mousquetaires et pour leur char en forme de bateau, il aura fallu une grosse préparation technique et beaucoup de créativité.
Ça fait 6 mois qu'on bosse sur le projet, ça fait une semaine que la hype monte un petit peu et c'est vrai que c'est très court. Pour une après-midi, c'est très court, beaucoup de préparation. Mais là, ça y est, c'est parti, donc on est dedans et on pense plus à tout ça.
6 mois de préparation, 3 jours pour tout construire et un cahier des charges à respecter. Élise est la secrétaire de l'association étudiante du carnaval et elle veille au grain.
Ne pas avoir de remorque parce que quand on tourne, ça peut être dangereux. Pas de structure avec des objets coupants qui peuvent dépasser. Être sûr que la structure soit solide, qu'il n'y ait pas trop de monde sur le char et en fonction d'un métrage, on ne peut pas être plus que la capacité optimale.
La récompense après ces heures de travail, le grand défilé demain dans les rues du centre-ville.
Bon, on espère qu'ils seront waterproof hein, aussi ces chars parce qu'il est possible qu'il y ait quelques gouttes de pluie. Le carnaval étudiant de Caen, le plus grand carnaval étudiant d'Europe, c'est comme ça qu'on le définit, aura lieu demain.